La lecture d'aujourd'hui est dans le livre de Luc, chapitre 16, les versets 1 à 8. Il disait aussi aux disciples, un homme riche avait un intendant. Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire l'intendance ? Bêcher, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. » Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 battes d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » « 100. »« 100 corps de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Le maître félicita l'intendant injuste, parce qu'il avait agi en homme avisé. Car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. La parabole de l'intendant habile. La première lecture de cette parabole m'a laissé très interrogative. Elle ne doit pas être souvent choisie pour les prédications. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu. J'ai longtemps réfléchi, tenté de choisir un autre texte. Je me suis ravisée et lancée pour cette prédication qui m'a semblé vraiment difficile. Le texte initialement proposé se poursuivait jusqu'au verset 13, mais j'ai opté pour une réduction pour ne pas augmenter la difficulté. Je ne sais pas ce que vous penserez de cette prédication et si vous y trouverez une aide pour avancer sur votre chemin de vie. Cette parabole est vraiment déroutante. Et je me suis demandé pourquoi le Christ raconte une histoire aussi invraisemblable. Le manque de clarté de ce texte, qui me semble absurde a priori, mais mon esprit en recherche de compréhension. Mais enfin, que peut-on en extraire ? Nous sommes face à deux personnages. L'un, le maître, accorde foi à une dénonciation concernant son intendant. Il ne tente même pas de contrôler ou de savoir la version de l'intendant. Il le licencie. L'autre sait fort bien qu'il a mal agi et malgré la menace de perdre son emploi, il ne se défend pas, mais cherche une solution. Cet homme est un roublard né. Son inquiétude lui fait envisager plusieurs solutions pour continuer à vivre décemment à l'avenir. Se mettre à la culture, il ne peut s'y résoudre. Sans doute, ce serait trop pénible pour lui. Et puis, il ne sait pas faire. La culture, c'est épuisant et dévalorisant par rapport à sa situation précédente. Une autre possibilité, mendier. Sans aucun doute, moins fatigant. Mais ce n'est évidemment pas possible, car la honte l'envahirait. Probablement, son statut brillant d'intendant lui fait mépriser ces personnes pauvres qui tendent la main pour un bout de pain ou une piécette. Alors, que faire ? Ces deux solutions étant éliminées, il en reste toutefois une qui lui vient à l'esprit et qui mettrait son avenir à l'abri de toute déchéance. Sa pensée retorse lui fait rapidement trouver la façon de s'en tirer. Loin de lui l'idée d'être dans le besoin quand il sera évincé de son poste. Il a une idée qu'il juge géniale, mais qui est loin de l'être. Cet homme, qui a déjà montré son côté malhonnête vis-à-vis de son maître, va poursuivre sur cette pente dangereuse de la tromperie. Il convoque les débiteurs de son maître et à chacun réduit leur dette de façon très conséquente, puisqu'il accorde une remise de 50% à l'un, tandis que l'autre s'en verra accorder 20%. Ce sont des sommes importantes qui sont représentées par ces mesures d'huile et de blé. Il est certain que si ces hommes sont débiteurs, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'honorer leurs dettes. Sans aucun doute, ces hommes seront-ils satisfaits d'une telle opération en leur faveur, ne se doutant pas qu'ils participent à l'escroquerie du maître. La contrepartie viendra plus tard, lorsque l'intendant évincé de son poste se rendra chez ses débiteurs pour y vivre. De cette façon, on ne peut plus sournoise, il assure son avenir en espérant en retour bonté, générosité à son égard. C'est vraiment une âme perverse qui l'habite. Avez-vous remarqué l'habileté de cet homme malhonnête qui retourne la situation ? Non seulement il roule son maître, mais il entraîne dans la fraude les débiteurs qui deviennent ses complices par ses magouilles. Certes, son exemple n'est pas à suivre. Les débiteurs, probablement des clients déjà en difficulté, car n'arrivant pas à honorer leurs dettes, risqueront à leur tour la colère de la part de ce maître, les exposant ainsi à l'aggravation de leur situation qui deviendra plus difficile encore en les faisant à coup sûr plonger dans de plus grandes difficultés et côtoyer la précarité. Alors, pourquoi cette parabole nous invite-t-elle à la malhonnêteté ? Certainement pas. Mais quand on parle d'argent, il y a souvent un malaise qui s'installe, même dans l'Église. Il y a ceux qui en ont trop peu et qui ressentent une certaine gêne et peut-être de l'humiliation, car ne pouvant donner plus que ce qu'ils font. Et il y a d'autres personnes qui ne savent pas comment choisir les bons placements pour leur fortune, leur richesse leur octroyant de surcroît un sentiment de supériorité au sein de la société. Nous le savons, gérer l'argent est un problème qui n'est pas simple. Et nous en avons un exemple criant dans notre société française actuelle qui ne sait plus à quel saint se vouer pour réduire l'endettement de notre pays. Chaque parti politique veut tirer la couverture se croyant et se disant meilleur gestionnaire que le précédent pour obtenir le pouvoir. Les hommes politiques parlent de milliards quand nous sommes entourés de personnes qui n'ont pas un euro en poche pour se nourrir, se vêtir, s'abriter. Alors voyons ce qu'il faudrait extraire de cette parabole qui m'a tant intriguée. Avec cette histoire d'argent, ne parle-t-on pas aussi de la confiance ? Le maître qui a agi sur des dénonciations et renvoie son intendant en lui ôtant sa confiance, mais il le félicite finalement, jugeant que la crise a été bien gérée. Va-t-il le réembaucher en lui reconnaissant certaines qualités ou compétences? Nous ne le saurons pas. Difficile de bien comprendre tout ceci. Ce qui est certain, c'est que l'intendant est malin, et qui dit malin, dit mal. Cet homme ne semble pas recommandable, ne mérite pas la confiance qui lui avait été accordée. Ce que nous savons par contre, c'est que Jésus s'adresse non pas à une foule, comme il le faisait souvent, c'est à ses disciples qu'il parle, des personnes qui le connaissent bien et qui le comprennent lorsqu'il s'exprime. Avec eux, pas de problème, la confiance est acquise. C'est donc à un groupe limité de personnes qu'il parle ainsi, parce qu'il a la conviction qu'ils seront des témoins transmetteurs fiables. Ses disciples, qui ont placé en Jésus leur foi, sauront transmettre les messages reçus. Si nous estimons être aujourd'hui nous aussi des disciples, nous avons également ce devoir de transmission. Il est clair qu'il faut nous détourner des chemins hasardeux qui risqueraient de nous mettre sur une mauvaise pente. Il est indispensable de ne pas se fourvoyer, mais au contraire, d'empêcher que ceci se produise dans notre entourage. Nous voyons dans cette parabole combien l'argent peut corrompre une personne. Ceci n'est pas dit, mais la remise que l'intendant fait au débiteur est peut-être celle qu'il s'était mise en poche, se servant grassement. Nous ne le savons pas, donc inutile de tenter d'aggraver sa situation. S'il a détourné de l'argent à son bénéfice, c'est bien suffisant pour penser qu'il est un homme malhonnête. Ce qui semble dramatique dans cet esprit malfaisant, c'est qu'il tente de dévoyer ses débiteurs et de les faire glisser sur la plus mauvaise pente. Il les rend coupables de malversation et va précipiter ces gens dans une misère qui semble inévitable. Ne soyons pas comme cet intendant qui incite à la roublardise. Dans notre société, toutes sortes de personnes cohabitent. Tournons-nous non pas vers les personnes qui nous semblent aisées, mais vers celles qui ont besoin de soutien. Autour de nous, des hommes et des femmes isolés, parfois chargés de famille, vivent avec des moyens limités et connaissent la précarité. Notre tâche, alors, n'est-elle pas de leur apporter notre aide et notre soutien ? Tout simplement faire du bien et non pas d'augmenter leur détresse. Plusieurs possibilités s'offrent à nous pour être solidaires de ces personnes ou familles vivant dans la pauvreté et leur éviter de sombrer dans un dénuement total. donner de son temps, par exemple, ici, avec l'association d'entraide de notre paroisse Agathe que vous connaissez tous. Oui, il y a de l'aide à apporter bénévolement, même si ce n'est que ponctuellement. Cette aide sera toujours bienvenue. Lorsqu'on n'a pas de temps disponible, les dons sont bienvenus pour Agapé, mais aussi pour l'Église qui agit en France et dans le monde. Vous le savez, notre participation à la cible sert en partie aussi pour le DFAP et ses missions qui œuvrent aussi d'autres manières loin de chez nous, à Madagascar, à Haïti, etc. Il n'est pas obligatoire de s'investir de façon exclusive au sein de la paroisse. Des associations caritatives ne manquent pas dans notre pays. Et quel que soit l'endroit, tout don ou bénévolat, qui est aussi une forme de don tout aussi généreuse, est bienvenu, quelle que soit l'association que l'on rejoint. Et puis, des solutions qui ne sont pas onéreuses existent aussi. Ne pas hésiter, si l'occasion se présente, d'oser parler pour sensibiliser et convaincre les responsables politiques au fait qu'il faut apporter plus d'aide aux personnes démunies et aux étrangers en grande situation de précarité qui ont choisi notre pays pour fuir celui qui les a vus naître pour diverses raisons, et particulièrement la guerre qui engendre la grande insécurité. La dernière possibilité est d'aller spontanément, individuellement, à la rencontre de personnes qui ont tant besoin de soutien lorsqu'on devine que quelque chose ne va pas bien. Les laisser se confier, savoir s'arrêter pour parler, échanger, éventuellement conseiller, mais surtout écouter. Témoigner de sa sympathie avec une simple écoute. Mais même si ce n'est que cela, s'arrêter, se poser pour écouter avec un peu de compassion, quel que soit le motif de la conversation. Et je peux vous assurer que ça fait du bien au moral. Et c'est reçu comme un cadeau. Je peux vous affirmer que la récompense, c'est vous qui l'aurez aussi, car je suis prête à dire que vous vous séparerez avec un sourire à la fin de la conversation, un sourire réconfortant qui ira de l'un à l'autre, un sourire chaleureux qui fait du bien et allège un cœur lourd. Récemment, un bénévole qui prend des permanences le samedi a reçu un témoignage fort. Une personne accueillie lui a dit que pour elle, l'accueil du samedi est très important, qu'elle se prépare pour venir nous voir, car c'est le seul endroit, depuis qu'elle est en France, où elle se sent attendue. La parole de cette personne qui vit dans la rue témoigne qu'elle reçoit comme un don notre présence, telle une lumière sur sa route ou diffuse un peu de chaleur auprès de laquelle elle vient se réchauffer. C'est cette lumière, cette chaleur que nous devons poursuivre à dispenser pour l'espérance d'une vie meilleure. Certes, le texte aujourd'hui est un brin dérangeant car il remet en question nos certitudes, notre foi et nous perturbe. Mais l'amour que nous portons à nos prochains avec humanité est le témoignage que nous transmettons, celui que nous recevons de la part de notre Seigneur, qui est le seul modèle à suivre. N'oublions pas cette phrase. Dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Amen.